Mars 102.1, 7h43, Boulevard Against le matin. Je m'appelle Audrey, je vous accompagne jusqu'au 5 août, les matins comme ça, on se réveille ensemble. Max Larouche qui est là également, Tom Gauthier qui est en remplacement ce matin. On a toutes sortes d'affaires à jaser ce matin parce que la fin de semaine a été grosse. Là, on vient de clore le dossier Biden.
Ouais.
Je dis clore, peut-être que dans les 30-40 prochaines minutes, il y aura encore du nouveau, des nouvelles informations.
Peut-être seconde aussi.
Oui, Max, pas Max, mais Tom pourra s'en occuper aux nouvelles si jamais c'est le cas. Mais quelque chose qui fait énormément jaser en fin de semaine, c'est Microsoft. La panne vendredi qui a affecté 8,5 millions d'ordinateurs, ce qui équivaut à peu près au nombre de personnes au Québec.
Exact.
Mais image, là.
Ce qui semble même pas être tant
c'est pas
que
tant
ça
que
à
ça.
La base.
Non, c'est pas tant que ça quand on regarde ça dans le monde, sauf que c'est plutôt les impacts que ça a affecté les aéroports, les banques, les hôpitaux. Il y a du monde qui n'ont pas pu rentrer en onde vendredi matin parce que ça a affecté les radios aussi.
Puis, tu sais, moi, j'étais là vendredi matin avec la formule qu'on a où je fais les matinées, Tom fait l'après-midi en format plus musical le vendredi, mais quand même, on fait des nouvelles. Puis, en rentrant vendredi matin à la base, je vois ça. Puis, dans mon ordre de nouvelles, moi, quand je suis rentré ici vers 4h30, 5h le matin, c'était pas encore aussi gros. On n'avait pas encore tous les impacts. On comprenait pas encore à quel point c'était big ce qui était en train d'arriver.
C'est ça, je pense qu'on le comprend pas tout court. T'sais, Microsoft, je le disais tantôt, mais c'est le numéro 2 mondial derrière Amazon, devant Google. Ça a des énormes impacts, mais je pense que quand tu connais pas l'informatique, quand tu sais, nous autres, on utilise ça tellement facilement, les ordi, les téléphones, on se rend pas compte d'à quel point tout tient à un fil. Et pour parler de ça, la sécurité, ce qui se passe, les internets, comment ça marche, bien, on a le spécialiste. On a Steve Waterhouse qui est avec nous ce matin, spécialiste en cybersécurité, entre autres. Steve, bon matin.
Bon matin à vous autres, la gang.
Merci de prendre le temps, parce que là, on comprend pas tout. Là. 8,5 millions, comme on se dit, il me semble que c'est pas tant que ça. Qu'est-ce qui fait que ça a eu un impact majeur comme ça?
Bien, c'est si bien dit, dans le sens que oui, Microsoft en est une grosse partie de l'impact de cette situation-là, mais tout ça origine du logiciel antivirus CrowdStrike qui s'adresse principalement à des clientèles institutionnelles, voire de grandes entreprises. Et ici au Québec, il n'y a pas trop de clients de CrowdStrike, à part peut-être des grandes compagnies ici et là à Montréal. Mais à travers le monde, par exemple, juste l'exemple de l'aviation ou même des institutions financières, bien, ça naît eux où ce qu'ils ont justement ce logiciel-là antivirus qui est appelé Falcon. Et qui ont poussé une mise à jour dans la nuit de jeudi à vendredi. Et comme l'Asie a été les premiers qui ont été, bien évidemment, qui se réveillent sur le nouveau jour, nous autres, on dormait pendant ce temps-là, ça a quand même eu l'effet ondulatoire de s'en venir progressivement vers ici au fur et à mesure que la journée débutait. Fait que c'est pour ça, à travers le monde, beaucoup d'impacts ont été ressentis. Et pourquoi si largement? C'est parce que tout est interconnecté, tout est interrelié ici, aujourd'hui. Alors, ce qui fait en sorte que ça ne prend pas grand-chose qu'une mise à jour, bien, lorsqu'elle est poussée vers des millions de systèmes informatiques, bien, c'est là qu'on n'a pas grand jeu avec lequel on peut dire, bien, on va l'arrêter. Non, ça se multiplie là, à vitesse de la lumière. Et c'est pour ça qu'encore ce matin, il y a des aéroports qui ont reporté des vols, ils ont annulé des vols, des hôpitaux qui sont toujours en arrêt en Europe pour ne pas permettre à des opérations d'avoir lieu. Je veux dire, ça continue d'être démêlé progressivement, mais c'est pas chose faite encore.
Tu sais, Steve, on parle d'une mise à jour. Si, mettons, on m'avait dit un pirate informatique, on dirait que ça résonnait un peu plus béton, un peu plus crédible. Comment une mise à jour d'un antivirus associé à Microsoft peut faire un aussi gros bordel? On dirait que ça fait peur.
Bien, ça fait peur certain parce que c'est pas la première fois. C'est arrivé dans le passé. Moi, je l'ai vécu au début des années 2000 avec un autre fournisseur de services que c'était nommément McAfee dans le temps. Et ça avait fait le même genre de situation. Mais puisque c'était pas aussi répandu, tout le monde travaillait pas aussi connecté qu'aujourd'hui, ça a été des impacts locaux par organisation. Microsoft en a déjà eu avec des mises à jour Windows que ça s'est fait régulièrement, là, des impacts, encore une fois, localisés. Mais dans ce cas-ci, puisque l'antivirus se veut de protéger tout dans son ensemble, c'est là que ça a eu quand même un gros effet. Et demain matin, oui, tu dis, ça aurait été béton que ce soit un pirate. On aurait posé les mêmes questions. Comment ça se fait que le pirate est rentré? De qui que c'est, etc.? Il y a eu d'autres questions que ça serait installé. Mais là, dans ce cas-ci, c'est cette compagnie-là, ce logiciel-là, que c'est à l'euro. Mettons ça comme terme. Là, malheureusement, c'est un mea culpa, il faut faire comme ça.
C'est tellement banal.
Ben, ça a de l'air comme ça, mais il reste toujours bien qu'ils ont des questions à répondre parce que c'est pas supposé. Il y a un contrôle de qualité d'habitude qui est mis en place pour faire des vérifications avant que ça se déploie. Dans ce cas-ci, tout le monde se dit, Au moins, ils ont coupé Coiron cette fois-là, puis ils l'ont envoyé tout de suite. Mais... Fait que déjà là, il y a cette question-là. Après coup, comment ça se fait que Microsoft, aujourd'hui, ils ont de la sécurité à l'intérieur? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'ils n'ont pas été capables de le protéger, le système? Bien, parce que CrowdStrike protège Microsoft, parce que c'est bon d'avoir une surveillance externe contre des attaques. Là, eux autres aussi se sont fait prendre parce que l'incident a mené à faire en fait en sorte, pardon, que, comme tu as mentionné, Audrey, en entrée, le nuage Microsoft a été paralysé aussi. Ça, c'est les services en arrière. Donc, ceux et celles qui se servent de la suite Microsoft, Excel, PowerPoint, Word, tout ça, bien, ils ont été paralysés, eux autres aussi, vendredi. Alors, c'est comme ça que si CrowdStrike n'aura pas été à la protection du nuage de Microsoft, bien, il n'y aura pas eu autant d'impact, mais là, ça donne que c'est comme ça.
Est-ce que cette panne-là peut laisser entrevoir le pire en termes justement de sécurité informatique? Parce que tu dis, OK, là, le logiciel antivirus plante. Est-ce que ça peut avoir ouvert des brèches pour des hackers qui pourraient en avoir profité? Oui. Il y en a qui se sont essayés, c'est sûr, là.
Bien, pas directement ceux, parce que, écoute, le système, n'est pas opéré. Fait que si un ordinateur est barré, est fermé, est en écran bleu d'indisponibilité, ben les données le sont aussi indisponibles. Donc ça, c'est moins pire. Cependant, il y a eu deux campagnes notoires qui ont été détectées à partir de tard vendredi sur des solutions magiques qui ont été envoyées dans différents contextes mondiaux, c'est-à-dire par courrier électronique. Voici la solution. Si vous voulez vous en sortir rapidement, cliquez sur le lien ici. Ce qui fait en sorte qu'il y a des gens qui ont été tentés d'implanter la solution magique, ce qui a été une opportunité en or pour certains pirates pour rentrer du code de malveillant, soit une porte dérobée, qu'on dit en français, pour une backdoor, ou bien un rançon logiciel. Fait que les conséquences ont été mitigées cependant, mais il reste que c'est des occasions, comme n'importe quel incident malheureux comme ça, informatique ou pas, bien que ça arrive que oui, là, ils vont saisir l'occasion puis ils vont se lancer.
Mais t'as quoi comme pouvoir en tant qu'utilisateur? Parce que je me dis, il me semble que tu te sens petit dans tes shirts. Là, moi, vendredi matin, j'aurais été en onde puis tu t'aurais planté, mettons. Là, je sais pas oui. quoi faire, à qui m'en remettre, qui règle le problème, de quelle façon, quand puis comment, tu sais.
Ben voilà, c'est exactement le problème, Audrey, parce que avec la transformation numérique que subit la société dans les 15-20 dernières années, cet élément-là de résilience a été laissé de côté. Le plan B. Bon, bien, quand est-ce qu'on fait quoi quand il arrive telle situation? Tout ça, c'est toujours mis de côté, mais tu l'as dit tantôt, ça va bien, on n'y pense plus, on s'en va, on l'active, on roule avec ça, c'est fantastique. Puis le meilleur exercice que j'aime enseigner, quand on parle de résilience en termes de consommation d'énergie, bien, ça, le verglas de 98. Quand j'amène ça comme scénario, les gens se disaient à 97, bah, ça sert à rien d'avoir des génératrices, ça sert juste une fois de temps en temps, blablabla, bla, bla, on
c'est
est fort.
Ben
oui, le réseau, il est fort. Mère Nature nous a rappelé que non, c'est elle qui a raison de temps ouais. en temps. Fait que là, c'est, quand on arrive, puis il y en a un petit épisode l'année passée à Montréal, puis ça m'a ramené à faire un épisode de 25 ans, une conférence j'ai livrée, 25 ans de résilience, est-ce qu'on a amélioré les choses? La réponse, c'est non. Parce que, justement, il fait en sorte qu'on ne considère pas cette situation-là. Et dans le cas précis, dans la fin de semaine, bien, il va falloir qu'il y ait, justement, ces reconsidérations-là, à revoir les plans, autrement dit, si ça ne fonctionne pas, surtout pour les PME. Qu'est-ce qui est mon plan B? Parce qu'il y en a beaucoup qui ont vu ça en fin de semaine. Je pense qu'on va retourner avoir... Tu sais, il y a des boutiques, des fois, qui interdisent le paiement par cash, donc argent comptant. Mm-hmm. Mais là, on a vu, oups, il y en a qui ont commencé à dire, « Ouais, mais finalement, tu vas pouvoir payer avec ton argent comptant ouais. parce que mon paiement ne marche pas. »
On a peut-être besoin encore, finalement. Là.
Monsieur Waterhouse, oui. question pour vous. Dans les derniers jours, avec cette panne-là, on essaie de trouver, bien sûr, qu'est-ce qui est arrivé réellement. Puis on dit que c'est probablement une erreur humaine. Est-ce que oui. vous prônez cette hypothèse-là?
J'ai rien avec laquelle prouver que ça serait autre chose. Puis si un président de compagnie s'avance publiquement avec cette allégation, autrement dit, cette déclaration, lui-même lui a dit « Non, non, c'est nous autres, ça vient de mm-hmm. quelqu'un à l'interne », ça serait lui qui perdrait sa job demain matin de dire ouais. « ça marcherait plus, là, tu sais. » Fait qu'on n'a pas le choix, là. On prend à première vue sa version. Pour ça, je mentionne, si il y a une enquête du Congrès américain, comme c'est souvent le cas, et j'espère qu'on va le savoir quand est-ce qu'elle va avoir lieu, cette enquête-là, parce que les leviers gouvernementaux, c'est eux autres les plus forts pour être capables de faire cracher le morceau de ces grandes organisations-là. Fait okay. que dans les prochaines semaines, on devra avoir un semblant de vérité qui va être dit sous serment, en tout cas, et qu'on va avoir la vraie raison. Mais quand on écoute Microsoft, qui a témoigné en mai dernier sur les frasques de Outlook que le gouvernement, ben, les opérants du renseignement chinois et russe ont allé mettre les mains dans des boîtes à mal Outlook, ben, c'était pas édifiant qu'est-ce que le président a dit là-dedans. Moi, j'en ai ressorti de cette écoute-là, puis oups, non, Microsoft, il l'a pas à game, là. Mm. Il est pas dedans. Fait que c'est là que ça va aider peut-être à réajuster justement certaines stratégies pour pas dire la confiance envers certaines organisations.
Est-ce qu'il faut se mettre à avoir peur de faire des mises à jour sur nos appareils?
C'est bon, ça.
C'est une question que j'ai entendue en fin de semaine, mais j'ai pas trouvé ça innocent.
Non, exact. La raison est bonne. Cependant, c'est là qu'on est devant un choix comme consommateur. Est-ce que je fais aveuglément confiance au fabricant qui, lui, encore là, il a pris un engagement moral de dire qu'il nous offre un service exempt de trous, de logiciels incomplets, et je dis « OK, je vais améliorer ma sécurité, mais en même temps, tu sais, il soupoudre ça avec des nouvelles options souvent. Fait que, ah, ben là, je vais profiter de la nouvelle option. » Ou bien, j'attends. Souvent, c'est un mix des deux, mais il faut être éclairé aussi sur le sujet, parce que juste de dire toujours « Ah non, moi, j'en mets pas de mise à jour, comme ça, ça plantera pas », c'est à moitié vrai, parce que, bien souvent, ben, la correction va apporter des améliorations qui vont empêcher que ça plante. Fait que c'est là que on est mal pris un petit peu, et c'est dans la meilleure optique de dire « On est mieux de faire la mise à jour, ça va aider bien plus que ça peut nuire ».
Concluons le sujet avec cette question-là concernant les impacts peut-être au moment présent d'entrée de jeu. Tu as dit qu'il y avait encore des vols avec lesquels il y avait des problématiques. Oui. Est-ce qu'on sait à peu près quand est-ce que tout va être sous contrôle dans les prochains jours?
Non, absolument
pas.
Des
gens qui sont en vacances, mettons, là, de la construction, qui avaient un vol de prévu dans les prochains jours, est-ce qu'on s'inquiète?
Bien, on s'inquiète dans le sens qu'on n'a pas le choix. Comme beaucoup d'auditeurs sont arrivés à frontière, la frontière a été plus longue que prévu à cause qu'eux autres, même les douaniers et le système n'étaient pas disponibles, canadiens comme américains. Les aéroports, moi, je l'ai dit, dès vendredi, ça va prendre 72 heures avant que ça se remette en synchro, parce que lorsque tu as un arrêt mondial de l'aviation, c'est comme ça que ça fonctionne, parce que encore une fois, on dit que les systèmes informatiques, c'est tout interrelié, bien, les routes de l'aviation, ça a même aux us d'affaires. Mmh. Fait que oui, ça va prendre du temps à ramener, parce que, un, c'est pas tous les systèmes des aéroports qui vont revenir à la même vitesse. Les États-Unis ont été frappés bien plus fort qu'ailleurs, et on sait que, bien, du trafic aérien passe par les États-Unis. Fait que donc, ça va prendre un petit peu de temps, puis prévoyez que dans les aéroports, justement, je regardais des photos et des vidéos de l'aéroport d'Atlanta, qui est un gros hub, autrement dit, une grosse concentration de lignes de route vers un peu plus au sud, ben c'est là que faut être patient, puis amenez-vous deux bâtantes de plus, parce que ça peut attendre.
Tu m'angoisses officiellement, je prends l'avion jeudi matin vers les États-Unis. En passant, on parle avec Steve Waterhouse, spécialiste en cybersécurité. On a fait la portion Microsoft, on parle de failles, entre autres. Il y a Google qui va offrir plus de 208 000 $ pour quelqu'un qui trouverait une faille d'un certain type dans son système. Est-ce que c'est une pratique qui est répandue dans le milieu?
Oui, ça s'appelle la primo bug en français, le bon terme. Puis juste un exemple, au gouvernement du Québec, ça a été déployé en mai 2022, ça là, pour les systèmes du gouvernement du Québec. Donc, la primo bug, c'est l'exercice de dire aux gens, venez voir, visiter nos systèmes. Généralement, il y a une suite de règlements qui dit, tu as le droit ou pas le droit de faire telle affaire. Moi, je trouve ça niaiseux, parce que si tu es un pirate éthique, oui, tu t'adonnes à respecter les règles, mais si tu es un pirate malveillant, fous éperdument des règles. Tu sais, c'est comme un bandit. Ah, ben là, tu peux pas venir voler la banque en telle heure, voyons donc. Fait que donc, le but là-dedans, c'est de venir tester le système, de les briser, et si un bug est trouvé, Google est assez confiant, puis il va dire, tiens, on vous remet tel montant d'argent parce que, félicitations, on ne l'avait pas vu celle-là. C'est excellent comme exercice. Toute organisation devrait avoir ce genre de programme pour être en mesure d'être exempt, et du moins, il y a des gens compétents, donc, en la matière, qui voient et repèrent ces failles-là et que ça soit corrigé rapidement. Sans quoi, encore une fois, c'est donc travailler dans l'obscurité puis d'espérer que rien arrivera et que tout va bien.
Puis sans dire qu'il y en a qui gagnent leur vie avec ça, il y en a pour qui c'est une bonne partie de leur... Ou il y en a-tu qui gagnent carrément leur vie avec ça?
Définitif.
Ah ouais?
Oui.
Okay.
Ah oui, parce qu'il y a des primes au bug, là, que c'est dans cette ordre d'idée-là, tu sais, des centaines de milliers de dollars. Puis à la quantité de sites web qui existent sur la planète, c'est quelque chose que, oui, quelqu'un peut vivre exclusivement de ça, parce que ça devient à ce moment-là une spécialité. Et pas ici au Québec, parce que les gens ne payent pas ici, là, c'est ça qui est plat. Mais quand on va à l'extérieur, en Asie, en Europe et aux États-Unis, ben là, la grosse argent est là, et oui, à ce moment-là, quelqu'un peut aisément gagner sa vie de cette façon.
Mais là, avec Google, un Québécois pourrait participer, là.
Faudrait regarder les règles en général si la loterie des jeux, tout ça, vient pas contrecarrer ces
normalement,
opportunités.
Ça pourrait.
Oui, exactement. Mais généralement, c'est pas un concours, donc c'est du travail proprement dit. Mais par contre, tu as bien raison, Audrey, il faudrait juste regarder la réglementation par rapport à ça.
Je me dis, ils sont bien niaiseux de nous empêcher ça. Si le meilleur hacker est au Québec, là, moi, je me semble que j'ouvrirais les portes. Parlant de Google, et on va terminer pas mal avec ça, Steve, Google va proposer de surveiller gratuitement les données des utilisateurs qui pourraient se retrouver sur le dark web. Est-ce que c'est un service qui est vraiment pratique?
Ça peut être anxiogène, on peut-tu dire ça? Donc, ça peut créer plus d'anxiété que ça va rassurer. Ouais. Parce que au Québec, donc, on a été témoin de qu'est-ce que ça donne, la fuite d'informations par l'événement Desjardins. Ça a été vraiment le wake-up call, comme on dit. Et par cet événement-là, là, il y a eu une surveillance du dossier de crédit de 5 ans, et maintenant, ça prend fin prochainement. Est-ce que, pour vous, c'est important de savoir qu'il y a une autre pièce d'information, d'identifiant ou d'information personnelle qui est en quelque part sur les internets, sur le dark web, sur les web clandestins? Ça vous change-tu quelque chose le matin de savoir ça? Fait que ça, c'est la question à poser. Mais si vous l'apprenez, qu'est-ce que ça va faire alors que vous n'avez aucun pouvoir pour le détruire, puis vous n'avez pas aucun recours pour dire « Hey, site web XYZ », puis en passant, c'est vraiment sur le dark web, des sites point oignon, c'est avec un paquet de litres de chiffres, il n'y a aucun identifiant là-dedans. Tu ne peux pas demander, tu sais, tu peux te au bien essayer de le demander de retirer ton information, ils vont partir à rire parce qu'il y a déjà 500 copies ailleurs. Donc, c'est quasi impossible de retirer cette information déjà perçue. Alors, repérer ça, ça va donner quoi? Un, ça va aider à au moins se rassurer que oui, OK, mes informations sont présentes sur le dark web à quelque part. Si je me fais solliciter par courriel ou texto de façon malveillante, bien là, je le sais, probablement c'est à cause de cette information qui a été trouvée ici et là. Et c'est à peu près là que ça s'arrête le bénéfice de ce service-là. Et c'est pour en passant seulement que les gens qui ont des adresses Gmail. Alors, si on a des adresses autre chose que Gmail, bien, ils ne se préoccuperont pas de ces informations-là.
Comment ça, hein?
Bien, c'est une façon de garder sa clientèle proche, à lui donner un petit bonus, un petit service plus. Il y a d'autres compagnies, par contre, qui le font, peu importe laquelle adresse et quelle information tu recherches, que ça va permettre de savoir que vous avez quelque chose. Il existe un site australien qui s'appelle Have I Been Pwned, de Tony... Tom, son nom m'échappe, et qui, lui, il ramasse toutes les fuites d'informations comme ça, et permet à ce moment-là aux usagers de savoir est-ce que mon mot de passe a été repéré, mon adresse email a été repérée. Les mots de passe, là, à chaque année, on en a des listes de mots de passe incroyables.
Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Il est toujours numéro 1, merci. C'est là que c'est des rappels pour dire « OK, mais je pense que ce n'est pas le bon mot de passe là, que j'utilise. On va en mettre un petit peu, quelque chose d'un peu plus fort. Tu » sais. Mais en même temps, on apprend qu'il y a bien des adresses courriels qui sont là.
Mais
ben,
c'est ça.
Tu ne te rends pas compte. Là.
Moi, j'ai un VPN, puis j'ai appris hier que le service de le VPN que j'utilise vraisemblablement offrait un service de ce genre-là parce qu'il m'envoie comme information que mon adresse courriel se retrouvait quelque part. Mais tu sais, que mon courriel se retrouve quelque part, moi, s'il n'y a pas le code qui va avec, ça ne me fait rien.
Ben, ça donne juste l'idée que ça, tu vas te faire possiblement solliciter. Fait que tu vas avoir des offres de Tupperware, des offres de Cialis, tu sais, peu importe. C'est de la cochonnerie qui va rentrer. Mais si tu repères ton adresse qui est en quelque part dans les internets, ben c'est là que, OK, attends-toi que tu vas en avoir de la sollicitation.
Ouais, c'est ça, c'est
Troy Hunt qui est le propriétaire de Have I Been Pwned, qui est un site quand même de bonne réputation. Puis ça vous donne une idée si vous soumettez vos informations qu'il y en a en quelque part. Donc, ton adresse, tu pourras peut-être la retrouver là-dedans.
Steve Waterhouse, j'imagine qu'on a pas de... Il n'y a rien qu'on peut faire, hein, dans le sens que à partir du moment où tu es sur Facebook, tu es sur les réseaux sociaux, que tu as justement un Hotmail, Gmail, appelle ça comme tu veux, du moment où tu utilises les internets au quotidien, y a-tu vraiment le moyen de te protéger à 100% du dark web ou faut comme que tu te rendes à l'évidence que tes informations sont à quelque part de toute manière?
Ben, je dois dire, Audrey, que comme tu apportes, on est à l'évidence que l'information va couler en quelque part parce qu'on n'a pas le contrôle. Surtout que tu t'exposes, tu n'as plus le contrôle. Mmh. L'information, il faut qu'elle le fuit, tu n'as plus le contrôle à ramener. Alors, c'est d'en donner le moins possible comme prévention. Autrement dit, tu achètes une paire de bas à 9,99. Pourquoi faut-tu donner ton adresse courriel, ton adresse chez vous, ton numéro de téléphone, etc. Là.
Ça, c'est vrai, pareil.
Ça n'a pas rapport. Fait que tu payes cash, that's it. Là, c'est, tu es, à ce moment-là, un consommateur comme ça, averti. Ensuite, ben, la loi 25 qui est introduite en septembre 2022, ça a cet effet-là. Comme le RGPD en Europe et d'autres lieux, pour que ça donne une responsabilité aux compagnies pour qu'ils puissent, à ce moment-là, faire tout en leur pouvoir et de protéger cette information-là. Ça, c'est un éveil intéressant qui est arrivé. Nous autres, au Québec, donc, on est à l'avant du reste du Canada avec cette loi-là. Mais en Europe, ça fait 6-7 ans maintenant, ça a toujours bien pris toute cette année-là avant que ça mature, qu'il y ait des changements profonds quant à la gestion d'informations qui se passe. Ça a pris des grosses amendes, des exemples publics. Puis ici, on n'a pas. Il y a eu plein de fuites d'informations depuis 2 ans. Et la Commission d'accès à l'information du Québec, ils s'assient sur leurs 2 mains et ne font rien. À part de diffuser une liste de ceux et celles qui ont été méchants puis qui ont laissé fuir de l'information, il se passe rien. Et ça, tant que ça va rester comme ça, les compagnies vont s'en foutre éperdument et ils ne prendront pas leurs responsabilités. Alors que si tu déclares aux États-Unis, au Security and Exchange Commission, au SEC, tu dis « je suis une compagnie, voici j'ai une fuite, etc. » Puis si tu ne le fais pas, ils vont te rentrer dedans. Alors, c'est là qu'il y a un élément aussi de responsabilité, de conséquence qui doit suivre et non pas juste faire un énoncé puis dire « hey, là, si tu ne suis pas, tu n'es pas correct. » Ben oui, les gens ne seront pas corrects, malheureusement.
Steve, je te remercie d'avoir pris le temps ce matin de nous expliquer ce qui s'est passé en fin de semaine, de nous mettre à jour un peu sur ce qu'il y a au niveau sécurité, technologie, spécialiste en cybersécurité, entre autres, il faut le dire, Steve Waterhouse. Bon matin et merci d'être venu nous jaser.
Bon matin, puis à la prochaine.
Salut. Ah, un individu que j'apprécie énormément. Je comprends pas grand-chose, moi, hein, tout ce qui est technologie, tout ce qui est sécurité. Je fais pas super attention non plus à où je mets nécessairement mes données tout le temps. J'ai jamais été bonne là-dedans.
Ben ça, mais moi, au-delà de pas être bon, je pense que je me méfie pas assez non plus.
Manque de conscience, exactement.
Comme je dis, mon VPN hier m'envoie une alerte comme si c'était grave, puis tout. Puis là, j'ouvre ça, puis OK, mon adresse email est sur le dark web. Qu'est-ce que ça peut me faire? T'sais, je vais recevoir des affaires, comme il dit, de Cialis. Puis de... OK.
Oui, puis c'est assez dur de faire la part des choses, parce qu'aujourd'hui, je veux dire, tu vas magasiner, puis on te demande ton adresse courriel, puis t'envoyer la facture par courriel.
Oui.
Fait qu'il y a comme un moment où tu sais plus trop où la mettre,
la
limite. Puis moi, je prends pour acquis que de toute manière, mes informations doivent être partout en ce moment. On était comme la génération test. Hein?
Ben toi, tu dis fait tout que... à la radio anyway. Fait que...
C'est vrai que je peux pas être plus transparente que je le suis en ce moment. Hey, cet album-là était un des plus marquants probablement au niveau de l'univers de la musique. Nevermind. C'est Nirvana que vous entendez en arrière avec Come As You Are à Boulevard 102.1.